La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Tout d'abord, nous allons souhaiter une très bonne année 2014 à nos auditeurs et auditrices.
Et oui, c'est bien le moment. Hein.
Dans le jazz, on a l'habitude de se souhaiter une bonne et swingante année. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et nous avons pensé que le retour de vos vacances méritait une petite compensation sous forme d'un revenez-y. Et comme vous avez certainement été dans les pays chauds, tropicaux et mythiques, nous allons vous en offrir une petite ressucée.
Et même si vous n'y avez pas été, on va vous y emmener, parce que comme ça, c'est presque comme si vous y aviez été.
Exactement, c'est un bon coup de soleil, de palmiers, de cocotiers, de plages. Et nous allons commencer par un disque de Louis Armstrong qui s'appelle...
Song of Island.
Les islands en question sont celles d'Hawaï.
Naturellement, tout le monde sait où est Hawaï.
Ben, Hawaï, c'est quelque part à mi-chemin entre l'Amérique californienne et le Japon, si vous voyez ce que je veux dire. Il a été beaucoup chanté par les Américains, puisque c'est un lieu de villégiature.
Et de vacances.
C'est même devenu le 50e état.
Il y a une histoire amusante sur ce Song of Island.
Oui, parce que le cœur des Hawaïens, qui étaient de vrais Hawaïens, vous paraîtra sans doute harmoniquement peut-être un peu suspect. En fait, on s'est longtemps demandé, le jour où on enregistrait, pourquoi une petite dissonance. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et on a fini par découvrir, planqué derrière une pile de haut-parleurs, le valet de Louis Armstrong.
Qui s'était glissé. Pour chanter, il était tellement content, cet homme-là. Pour chanter avec les autres, seulement voilà, il y avait un problème.
Et oui, il voulait être sur le disque, mais il ne chantait pas juste. Et voilà pourquoi quelque chose dans ce disque vous taira peut-être l'oreille. Mais c'est un très beau disque de Louis Armstrong. Ça commence avec des violons enchanteurs. Et donc, ça s'appelle...
Song of Island.
Chanson des îles.
Oh,
suivant, bah, ça va être Benny Carter. Et Benny Carter, il se trouvait à ce moment-là à Malibu.
Oui, attention, Benny Carter et son grand orchestre, car c'était à l'époque la prospérité galopante, surtout en Californie. Surtout en Californie.
Les gens venaient en vacances là-bas, c'était vraiment un lieu très très prisé. Et bien sûr, les orchestres jouaient. Alors, où est-ce qu'ils jouaient? Il y avait souvent des très grands hôtels. Et là, il y avait ce qu'on appelle le lobby. Le lobby, en réalité, c'est le hall. Et les orchestres se produisaient là, et ils se produisaient, ça pouvait être 15 jours, ça pouvait être un mois. Ça dépendait du succès de l'orchestre.
Oui, parce qu'il faut savoir que les hôtels américains ne sont pas tout à fait comme les nôtres. Le hall est immense. Il sert généralement aux gens qui passent par là à se donner rendez-vous, d'ailleurs, sans être client, forcément.
C'est presque la salle des pas perdus de la SNCF. Oui,
tout à fait. Et puis on peut s'asseoir, enfin, on peut être tranquille, on peut même consommer. Et puis il y a des systèmes de paravents, des espaces qui sont créés et qui servent d'auditorium. Et la plupart des émissions de radio qu'on a finalement réussi à avoir en disque d'orchestres célèbres comme Ellington, Basie ou Benny Carter ont été enregistrées à l'occasion de concerts tenus dans ces lobbies.
Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y avait une bonne acoustique.
Ah mais c'était très bien fait. D'ailleurs. Alors Malibu, c'est aussi l'endroit où beaucoup de stars d'Hollywood avaient leur maison. Hein. Donc vraiment de quoi faire un bel arrangement. Et c'est ce dont ne s'est pas privé Benny Carter, à l'occasion donc d'une résidence dans un de ses fameux hôtels.
Alors là, on va faire un grand saut de puce, dites donc. On va passer de Malibu à Shanghai.
On traverse le Pacifique, ni plus ni moins. Et en plus, on traverse le Pacifique d'un seul coup et sans faire la guerre. C'est quand même pas mal.
Génial. Hein? Pourquoi à Shanghai? Eh bien, parce que figurez-vous qu'il y avait là une quantité incroyable de personnes, aussi bien américains qu'anglais, que français. On y faisait des affaires.
Si vous avez lu dans les aventures de Tintin un livre qui s'appelle Le Lotus Bleu, vous aurez tout compris.
Saine lecture.
Hein. Oui, oui, oui. et ça se passait dans la concession internationale. Et laquelle concession était naturellement abondamment pourvue de lieux de plaisir, puisqu'il y avait des hommes d'affaires qui étaient là en abondance. Et maintenant, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. La place de Shanghai, géographiquement, est très bien placée pour faire des affaires. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde à Shanghai, comme à l'époque de ce disque, qui fait de la musique.
Mais on va revenir à la musique avec ce Shanghai Shuffle de Fletcher Anderson.
C'est un morceau très intéressant, ce Shanghai Shuffle, d'abord parce que l'arrangement est absolument magnifique et il est de Fletcher Anderson lui-même pour son grand orchestre. Et c'est très rare, les arrangements de Fletcher pour son orchestre, à lui. Il en a fait pas mal pour d'autres orchestres plus tard dans son existence. Mais celui-là est quand même une pièce magnifique. Également remarquable par la qualité du jeu de contrebasse de Elmer James. Alors là, il y a une sacrée atmosphère et puis il y a une vigueur d'arrangement qui est tout à fait remarquable.
Maintenant, on passe avec Corsicana.
La Corse, voilà un lieu de villégiature et de vacances, plutôt pour les Français d'ailleurs, mais l'île de beauté, c'est vraiment très beau. C'est assez paradoxal de retrouver cette île évoquée au travers d'un titre, d'un morceau de Lips Page.
Lips Page, c'est un trompettiste absolument formidable. D'ailleurs, ses contemporains musiciens l'appelaient Lips, c'est pas par hasard. C'est-à-dire les lèvres, effectivement, pour un trompettiste, on a intérêt à en avoir les bonnes.
Ça vaut mieux. Et Dizzy Gillespie disait de lui que c'était le plus grand genre de blues à la trompette qui ait jamais existé. Et le morceau s'appelle comme ça, non pas parce que Lips Page avait envie de passer ses vacances en Corse, comme vous, peut-être.
C'est à se demander, même s'ils savaient où c'était, parce que vous savez, les Américains, c'est tout juste quelquefois, ils connaissent la France. Europe, ils connaissent.
Oui.
Mais la France, et puis alors la Corse, non, pardon.
Même ouais, pas. Et c'est pas, l'Europe, oui, c'est pas par là-bas, ma grand-mère m'en a parlé.
Oui, c'est ce qu'un petit Américain nous a dit une fois.
Mais la planète du jazz, elle, a fait le rapprochement entre Corsicana et l'île dont le chef-lieu est Ajaccio. Et nous vous informons quand même, pour votre culture générale, que Corsicana, c'est une petite ville très près de Dallas, d'où était originaire à Ipswich, et que cette ville, petite ville, ce bourg, s'est appelée Corsicana à cause de son fondateur, dont on a perdu le nom, mais dont on sait qu'il était corse.
Maintenant, c'est au cours d'un hommage à Bessie Smith qu'on va parler d'un endroit tout à fait sympathique, qui est le golfe du Mexique.
Alors, plein de bayous, de palmiers, de pélicans, de tas de choses très exotiques. Et puis alors la vedette du morceau est sympathique à tout point de vue.
Et oui, il s'agit de Juanita Hall, qui était à la fois comédienne et chanteuse.
Est-ce qu'on veut dire Juanita ou Juanita ? Grand problème sémantique.
On le dit à notre manière auvergnate, Juanita, les ou.
On peut dire les deux, l'un et l'autre se dit ou se disent, comme disait le célèbre grammairien. Juanita Hall, donc, montait sur les planches pour tenir le rôle de divers personnages, mais en particulier, elle a eu l'occasion de jouer celui de Bessie Smith. Et Juanita Hall était une fan absolue de Bessie Smith.
Au point que lorsqu'il s'est agi, après la mort de Bessie Smith, de faire une stèle...
Très longtemps après sa mort.
Oui, oui. Ouais.
Très longtemps.
Une stèle, eh bien, il y a deux personnes... qui ont payé cette stèle de leur poche.
Et qui ont pris cette initiative conjointement. C'était Janis Joplin et Juanita Hall. Et c'est curieux parce qu'on parle toujours pour cette stèle de Janis Joplin, mais l'autre...
Ouais, t'es un peu oublié.
Un peu oublié, il faut quand même le rappeler. Sur sa stèle, il y a écrit « La plus grande chanteuse du monde n'arrêtera jamais de chanter ». Et Juanita Hall n'a eu de cesse que de d'enregistrer un hommage à Bessie Smith. Et pour ça, elle s'est entourée d'un orchestre assez extraordinaire. Et vous allez entendre le résultat. Et on soulignera que ce morceau, Gulf Coast Blues, c'est la phase B du premier 78 tours qu'a publié Bessie Smith lors de ses débuts. Et de l'autre côté, il y avait Dawn Hearted Blues, qui est également sur ce micro-sillon de Renita Hall. Une fois de plus avec Ferdinand Lamothe, dont le nom officiel dans le jazz est Jelly Roll Morton.
Et là, on va trouver un petit jeu de mots. Un jeu de mots genre Jelly Roll, justement. Il a intitulé son morceau Tia Juana.
Alors là, nous savons que Tia Juana, c'est le nom parallèle, je dirais, parce qu'il y a plusieurs manières de le dire, de Tijuana, qui est une ville frontière, pratiquement, ou très proche de la frontière, côté mexicain, avec les États-Unis. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que Jelly Roll se trouvait à Tijuana, puisque sa vie agitée l'avait sans doute amené à se mettre entre parenthèses de la police fédérale pendant quelques temps.
C'est ça. Voilà. Si un problème, on va de l'autre côté de la frontière.
Voilà,
on revient quand ça se calme.
Et cette ville frontière était naturellement un refuge de moult contrebandiers, malfaisants divers, avec les lieux de plaisir qui allaient avec. Et c'est pourquoi Jelly Roll Morton avait aussi décroché un engagement au Kansas City Bar.
Alors pourquoi Tia Juana, ce qui veut dire Tante Juana.
Ah, alors là, c'est à rapprocher oui. d'un autre morceau de Jelly Roll qui s'appelle Mama Nita.
Et cette Mama Nita semblait être une de ses nombreuses bonnes amies et qui était fort jolie puisqu'il avait même fait un morceau où il parlait des dents de la belle.
Et ce morceau s'appelait Les Perles, The Pearls.
Ah, quand même.
Enfin, il faut quand même dire que cette Nita, de toutes les conquêtes de Jelly Roll Morton, c'est celle qui a le plus marqué sa musique. Donc, je pense qu'il en était complètement dingue. Voici donc le solo de piano qui va avec Tiarvana. Selon votre humeur, vous penserez à la ville ou vous penserez à la demoiselle. Et ce solo de piano, il est typiquement Jelly Roll.
C'est la fameuse Spanish Touch. Maintenant, on va aller avec les Dumoussier Stompers dans un endroit un peu jungle.
Oui, on est au fin fond de nulle part. Et là, il y a des païens. Mais ces païens chantent l'amour très bien.
Eh oui, parce que le morceau, c'est Pagan Love Song. Ah, la chanson d'amour des païens.
Nous verrons d'ailleurs en entendant le morceau que ces païens-là ont un peu l'amour brutaliste. Hein, ça, quand même, il faut dire. Ce morceau-là, il vient du répertoire de Louis Armstrong, de l'immédiate avant-guerre à peu près. C'était un effet de mode, en fait. Hein.
Oui, c'était exactement ça, parce que pendant tout un temps, on a vu des Noirs américains déguisés avec des peaux de bêtes africaines, dansant sur des tam-tams ou se servant de tam-tams, alors que finalement, ils avaient d'excellentes batteries. Mais bon, c'était pour faire Africa, Africa.
Oui, parce que la mode était sous l'impulsion de Harlem Renaissance. La mode était au retour vers l'Afrique.
Voilà.
Enfin, bref, il en est résulté de très bons morceaux de musique. Et les Dumoustiers ont tapé dans ce répertoire-là pour monter et enregistrer donc ce chant d'amour païen qui s'intitule
Pagan Love Song.
Mais en réalité, sur le disque, le titre a été détourné parce qu'ils en ont fait une sérénade. Et cette sérénade est à la patronne de l'auberge du Pu à Souillac, lieu extrêmement sympathique et accueillant pour les jazzmen. Je le dis pour faire un peu de pub à cet établissement remarquable. Thank you. Voici maintenant Benny Carter qui nous fait le coup du sombrero.
Et oui, puisque le morceau s'appelle Mexican Hat Dance. Et vous savez que, attention, un chapeau mexicain, ça prend la place de deux personnes.
Hein. Largement. À l'ombre d'un sombrero, une famille entière peut faire la sieste tranquille. Tout à l'heure, on parlait de la mode retour à l'Afrique. Et là, on a un peu plus tard, il y a eu une mode latino.
Oui, avec trompette parfois doucereuse. Et puis des maracas et des tas de trucs qui font un peu... Qui font un peu Mexique, quoi.
Oui, un peu Mexique, un peu latino. On appelait ça, d'ailleurs, un peu cubain aussi. Le titre officiel de cette influence, c'est l'afro-cubain. Nous autres, on vous avoue que l'afro-cubain, on n'en est pas des fanas. Et nous sommes très heureux de voir que dans ce morceau qui vient, Benny Carter s'est contenté essentiellement du titre pour cette évocation latine.
Parce qu'il a fait finalement du jazz, vous voyez.
Oui, oui, tout à fait. Il avait d'ailleurs réuni un grand orchestre assez extraordinaire pour cette séance d'enregistrement. Orchestre dont le batteur est le méconnu J.C. Heard.
Ah oui, ça.
Ah non, à citer de temps en temps. Parce que vous savez, en jazz, il faut commencer par écouter la batterie. C'est toujours comme ça. Si le batteur est bon...
Il y a des chances que le reste soit bon aussi. Hein.
Et comme disait Joe Jones, si le batteur n'est pas bon, vous n'entendrez pas de musique. Évidemment, il était batteur lui-même, il savait de quoi il parlait. Bref, voici donc... par le Big Band de Benny Carter, Big Band d'occasion, de circonstance pour une séance d'enregistrement. Voici
Mexican Hat Dance.
Thank you.
voici maintenant un morceau doublement exotique. D'abord parce qu'il évoque l'Arabie, et l'Arabie des mille et une nuits. Hein.
Oh oui.
Et puis ensuite parce qu'il évoque Mesdames, l'acteur dont vous étiez toute folle en 1920.
Oui, enfin les gens qui étaient nés à ce moment-là. Il s'agit bien sûr de Rudolf Valentino. Cet homme-là, ça a été la première personne mondialement célèbre à cause d'un film, The Sheik. C'était un film en muet. Imaginez Rudolf Valentino, il ressemble un peu à Tino Rossi jeune. Oui. En un peu moins beau que Tino Rossi.
Tu trouves ? Ah, oui. Le sujet est controversé.
Mais les femmes étaient folles de ce type-là. Et alors, il a fait un succès vraiment mondial, en muet, naturellement. Et ce qui a fait toute sa célébrité, eh ben, c'est sa mort.
Car il est mort très jeune, à peine passé 30 ans, dit-on d'une appendicite. Et de nombreuses femmes se sont ensuite suicidées sur sa tombe.
Oui, mais énormément, énormément. Maintenant, on est un peu impressionné que ça a eu tant de retentissement.
Ça a eu également du retentissement dans le domaine musical, puisque la maison Mills, qui était une bande de requins tout à fait remarquable d'ailleurs, qui était donc producteur de disques et de musique.
Ah oui, ils se sont dit, on va en profiter.
Ah ben, tu parles. Ils se sont précipités sur le thème et ils ont exigé de leur compositeur le plus rapide qu'il fasse une chanson ayant comme thème le Sheik. Et la chanson a eu un succès monstrueux, d'autant plus que ça a coïncidé avec la sortie du deuxième film qui était Le Fils du Sheik. Parce que tu penses que bien que quand on a fait un tabac avec le Sheik, on va en Amérique et d'ailleurs ailleurs, attiré par le lucre, on va naturellement pondre un deuxième truc, Le Fils du Sheik. Puis après, eh bien, le petit-fils du Sheik, le Sheik contre le Sheik parle.
Oui, seulement ils ont eu un problème, c'est que leur vedette est morte. Voilà.
Oui, ça c'est sûr. De ce morceau qui s'appelle The Sheik of Arabia, le jazz s'est emparé, et puis alors, pour des versions souvent très comiques, entre parenthèses, parce qu'il y a des versions parodiques, c'est devenu un standard du jazz, et nous retrouvons avec le Sheik of Arabia l'élève de Sidney Bechet, le seul d'ailleurs, le seul qui l'ait supporté, je pense.
Il s'agit de Bob Wilber.
Alors Bob Wilber est saxo-clarinettiste, et au piano, l'élève de Willie Smith le Lion,
Ralph Sutton.
Et ça fait un excellent résultat. Écoutez plutôt. Thank you.
Ah, et maintenant, on va à la plage.
Mais ah oui.
Pas n'importe quelle plage.
Ah non.
On va à la plage de Bali-Bali.
Oh là là, mais quel voyage! Nous n'avons fait qu'un saut du Sahara jusque dans les Philippines.
Et cette plage, en philippin, Bali, ça veut dire beau.
Oh. Et Bali-Bali, ça veut dire beau. Non, ça veut dire très beau.
Ça veut dire très très beau.
Très très beau. Et sur cette plage de Bali-Bali, ou juste à côté, se trouve une résidence de rêve qui s'appelle le Bali-Bali Resort. Où si vous avez envie de vous ruiner pour le restant de vos jours, vous pouvez aller passer une semaine euphorique, entourée de tous les soins possible et imaginable, une piscine à couleur d'émeraude, enfin, etc. Il y a un prospectus remarquable. Et tout ça nous amène au fait que, certainement, ou sans doute, l'orchestre de Jimmy Lunceford a eu l'occasion d'aller faire une résidence. Et il y a dans ce disque qui s'appelle, justement,
On the Beach at Bali Bali.
Il y a dans ce disque un vocal pris par le trompettiste et arrangeur Cy Oliver, qui était un fin musicien, un des plus fins musiciens qui soit dans le jazz. Il y a un vocal sur lequel on peut attirer l'attention parce qu'il a été chanté en se calant, non pas selon le tempo, mais d'une manière extrêmement décontractée. Et en fait, on pourrait presque dire sur un tempo différent. Et ce Cy Oliver, en faisant ça, qui est là de trois fois rien, il soude de manière incroyable. Ça, c'est un vocal très spécial. Allez, maintenant, direction...
Bali Bali.
Le cap sur la plage.
I'd meet the girl who used to live next door to me. And now we have a cottage in the valley. And little something else that's hers and mine. It started on that beach at Bali Bali. And ended up way down in Carolina.
Dans cette affaire de vacances dans les contrées exotiques, on a un peu oublié l'Afrique. Il est temps de se rattraper.
Eh bien, on va se rattraper avec Fats Waller, qui a un titre assez amusant, puisque ça s'appelle African Ripples.
Moi, j'ai tout de suite pensé, à l'époque, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, Ripples, ça peut être, c'est des rapides, c'est une rivière africaine, un torrent.
Penses-tu ?
Le haut cours du Nil, les chutes de Victoria, que sais-je ?
C'est beaucoup plus simple que ça.
Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la mode du retour vers l'Afrique.
Ripples, c'est les petites ondulations, les frisettes. Donc, African Ripples, ça veut dire petites ondulations à l'africaine ou Frisette africaine.
Voilà un bon titre, Frisettes africaines. Ça, c'est très joli. C'est très joli. Ah, c'est un solo de piano de Fats, absolument formidable, qui a fait beaucoup parler de lui à Harlem, d'ailleurs. Pas que pour les ondulations de la coiffure, hein, pour ce qu'il faisait avec le clavier. C'est un des morceaux qui a marqué son parcours.
Vous vous souvenez que Fats, on l'a déjà dit, parce qu'on en parle souvent, mais c'était pas par hasard qu'il s'appelait Fats. Hein.
Non, 1m90, 140 kilos.
Oui. Il déjeunait avec 8 œufs durs.
Et quelquefois 6 ou 12 côtelettes de porc.
Impressionnant.
Le personnage dans le jazz qui se rapproche le plus de Pantagruel ou de Gargantua réunis, c'est quand même Fats Waller.
Quel humour et quel musicien.
Ah oui, ça c'est sûr, comme musicien, il était prodigieux. Voici donc, par ce cher Fats, c'est en l'honneur de quelques artifices capillaires.
African Rebels. Maintenant, on va aller au comble de l'exotisme. On va vous emmener, devinez où ?
On va vous emmener en France, parce que nous pensons aussi à tous ceux de nos auditeurs qui, au lieu d'aller à la pêche au gros, aux Seychelles, en Afrique, en Amérique, au Mexique, aux Philippines ou encore ailleurs, sont simplement allés prendre leurs vacances en France. Et ils ont eu bien raison, car la France est la première destination exotique du reste du monde. Il faut quand même le savoir, ça.
Première destination touristique, c'est vrai.
C'est vrai.
Alors, quand on va au Lioran, pour un Américain, c'est très exotique.
Remarque, le Lioran, pour un Saint-Florent, ça peut l'être aussi. Et nous avons choisi le plus grand des jazzmen, Lou Armstrong, chantant la France dans un morceau qui est dédié à la France et qui s'appelle
Alors, je vais vous le dire avec l'accent d'Armstrong. C'est bon.
C'est si bon. C'est un disque qui a eu énormément de succès au moment où il a été publié, je me souviens. Il a fait plaisir à beaucoup de Français et d'amateurs de jazz. Et donc, c'est par ce morceau que nous allons conclure cette émission. Mais avant de conclure, nous dirons que pour la première fois, depuis qu'elle existe, cette émission a bénéficié d'un réalisateur qui a pris les manettes de la table de mixage. Et donc, nous remercions de sa participation Léo Hermé-Leroy, qui est venu chez nous faire un stage pour voir comment ça se passait et qui, comme vous avez pu le constater, a parfaitement compris de quoi il s'agit.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought. And it's this, dear, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.